rencontre sur Radio Orient.
L'invité de rencontre, Ziad Medouk, directeur du département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza, coordinateur du Centre de la paix. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios de Radio Orient.
Merci.
Témoin de la vie à Gaza, vous êtes enseignant. Quelle réalité vivez-vous aujourd'hui dans l'enclave palestinienne, Ziad Medouk ?
D'abord, merci beaucoup à la rédaction de Radio Orient. Ça me fait plaisir, donc, après des années d'échanges. Parce que moi, comme palestinien de Gaza, donc je ne pouvais pas sortir facilement de Gaza. Donc, mais j'ai essayé de résister via la langue française, via les témoignages, via mes relations avec la société civile, avec les médias ici en France. Et donc, ça me fait plaisir de venir en direct dans les studios de Radio Orient pour échanger avec vous. Et donc, voilà, pour revenir directement à votre question, une réalité très dure, marquée par surtout l'absence de perspective, chez les jeunes surtout, bombardement israélien, blocus israélien inhumain, souffrance, chômage, mais surtout une volonté de rester, de résister, et surtout une volonté de ces mères et des pères et familles de bonne volonté de continuer à envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre, pour avoir des diplômes. Mais on peut dire que la réalité dans la bande de Gaza, c'est une réalité de souffrance, réalité de manque d'espoir pour l'avenir, désespoir total, mais il y a une volonté de rester, de résister, de s'attacher à la terre et surtout pour garder espoir malgré tout pour l'avenir.
Aujourd'hui, vous êtes un témoin, Ziad Medouk ?
Oui, bien sûr. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas pu sortir de Gaza, donc avec beaucoup de difficultés, parce que, comme vous voyez, avec le blocus, avec les difficultés pour sortir pour un Palestinien de Gaza. Moi, personnellement, je fais presque toutes mes interventions, mes communications, parce que je suis avant tout un chercheur francophone, et je suis invité presque 15 à 20 fois tous les ans à participer à des colloques, à des séminaires, à des conférences scientifiques sur le domaine de ma recherche, ça veut dire l'enseignement de français, la francophonie, l'éducation à la paix, la démocratie, la non-violence, donc les perspectives pour l'avenir, le blocus israélien, la résistance des universités palestiniennes par le numérique. Et donc j'essaye de faire par Skype toutes mes interventions, mes communications. Mais il n'y a pas comme les contacts humains. C'est pour cela que je me force à sortir parce que pour un Palestinien de Gaza, il a besoin de 2 jours de sortir et 2 à 3 jours de revenir. Mais je me force, malgré toutes les difficultés, de sortir et de revenir à Gaza, de venir rencontrer les gens, témoigner, passer les messages, échanger et revenir à Gaza avec une énergie, avec une force pour continuer mon combat, mon engagement pour les jeunes et les enfants de Gaza.
Vous dirigez le département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza. Que représente la langue française à Gaza ?
Justement, donc, personnellement, la langue française, donc pour moi, c'est une langue de résistance, c'est une langue de témoignage, c'est une langue d'échange avec le monde francophone, un monde francophone qui soutient la cause palestinienne comme cause de justice. Et donc, j'ai décidé, moi, pas seulement d'approfondir mes connaissances de cette belle langue, ça veut dire en venant en France pour avoir une thèse de doctorat en 2009. Donc, j'étais donc le seul doctorant palestinien à avoir un doctorat dans le domaine de sciences de langage et le français langue étrangère. Mais j'essaie à travers le département de français d'encourager la jeunesse palestinienne à apprendre le français parce que le français, c'est une langue d'ouverture et une langue d'échange pour cette jeunesse palestinienne qui est enfermée, qui est encerclée, mais qui essaye, à travers la langue française, à travers le département français, d'avoir une ouverture sur le monde francophone en particulier et sur le monde entier en général.
Justement, vos élèves qui apprennent le français, c'est cette ouverture qu'ils recherchent, c'est cela qu'ils vous disent lorsqu'ils reçoivent vos cours ?
Oui, parce qu'en dehors, nous, c'est un département un peu différent des autres, réputé par ses activités en dehors de cours. Donc, il y a des cours tenus par des professeurs palestiniens, mais nous, on essaie d'exploiter les nouvelles technologies. On fait toujours des Skype. Quelquefois, on reçoit les peu de délégations françaises qui sont sur place parce que le contexte d'enfermement empêche pas seulement les Palestiniens de sortir de Gaza, mais empêche même les solidaires, les amis, les francophones, les chercheurs, de venir nous voir. Mais quelquefois, il y a quelques ouvertures où il y a, par exemple, des journalistes, il y a des médecins, il y a des associations qui viennent et des organisations internationales, donc autorisées par les soldats israéliens à venir dans la bande de Gaza. Et nous, on essaie un peu de les inviter à rencontrer directement. Et vous n'imaginez pas donc la joie de mes étudiants, parce que dans la bande de Gaza, historiquement, c'est la langue anglaise, parce qu'il y avait un mandat britannique avant la création de l'État d'Israël en 1948. Donc il y avait un mandat britannique. Donc l'anglais, c'est la première langue étrangère, mais depuis 1996, depuis l'arrivée de l'autorité palestinienne, donc palestinien et français, ministère de l'éducation ou de l'enseignement général en Palestine, travaille avec, en partenariat, travaille étroitement en coopération avec le consulat général de France, qui font un travail remarquable pour diffuser la langue française. Donc, ils travaillent étroitement pour développer l'enseignement de français donc, dans les territoires palestiniens. Et donc, cette perspective donne à l'étudiant palestinien donc, une invitation sur place pour venir. Quelquefois, le consulat offre des bourses aux Palestiniens pour venir ici suivre des stages, soit linguistiques, soit pédagogiques. Après, quand ils finissent leurs études, ils peuvent venir faire le master ou enseigner l'arabe dans des écoles. Ici, donc, quelques écoles et collèges et lycées en France. Et donc, et en dehors de cette situation, donc, nous, on fait beaucoup de Skype par des francophones, par des écrivains, chercheurs, professeurs. Et comme ça, ça permet aux étudiants, pas seulement de développer et d'améliorer leur langue française, mais surtout d'avoir des échanges et d'ouverture avec ce monde francophone.
Des liens sont établis entre les jeunes Palestiniens et les jeunes Français?
Oui, il y a beaucoup. Donc on a réussi à faire depuis 2009-2010, donc ça fait 5 ans qu'on travaille dans le partenariat. Et nous, on travaille beaucoup avec l'Université de Paris 8, ici à Saint-Denis, à Paris. On travaille à l'Université de Havre. Et actuellement, je suis prof invité, chercheur invité à l'Université de Havre. J'étais prof invité à Paris 8 dans les années précédentes. Aujourd'hui, je suis prof invité à l'Université de Havre. En 2013, j'étais invité en Corse à l'Université de Corte. Donc ça, c'est le premier axe, c'est l'axe recherche où les universités françaises invitent les collègues palestiniens pour venir ici mener des projets de recherche, faire des conférences, participer à des colloques et des séminaires, comme mon cas actuellement. Actuellement, je suis prof invité chercheur à l'Université de Havre où je participe donc à des conférences, séminaires sur la place des femmes palestiniennes, sur le rôle de la jeunesse palestinienne, sur la coopération donc, et sur l'ouverture des universités palestiniennes sur le monde entier. Donc il y a ça, ce premier axe. Deuxième axe, c'est un axe pour les jeunes. Donc nous, on encourage donc les jeunes à faire des échanges avec les jeunes français. Et donc nous avons beaucoup de partenariats avec des classes, soit dans des lycées, soit dans des universités. Ça, c'est le troisième axe. Troisième axe, c'est essayer de travailler avec des amis, des solidaires, des professeurs, des professionnels. Et donc souvent, on fait beaucoup d'échanges par Skype avec des écrivains, avec des universitaires, avec des professeurs, avec des spécialistes qui, à travers les échanges, ils sont informés sur la situation dans la bande de Gaza. Mais pour les jeunes palestiniens, c'est important de garder le contact avec ce monde francophone et surtout pour développer des liens avec des jeunes français. Et nous, on encourage toujours les jeunes et surtout qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, il y a une possibilité de sortir de cet enfermement voulu par l'occupation pour dire que nous sommes ici, on existe et on a besoin d'une ouverture vers le monde et en particulier le monde francophone.
Alors, on le disait, vous êtes un témoin de la vie à Gaza et vous formez également des témoins.
Oui, écoutez, bien sûr, parce que ça, c'est le principe. Donc, parce que quand il y a une réussite, quand il y a un exemple, donc les étudiants, ils essayent un peu de suivre ce modèle de réussite. Donc, ils essayent de témoigner, donc, comme moi, les étudiants, et surtout que nous, on encourage, parce que les relations avec le monde francophone, parce que chaque échange Skype, ils les suivent, parce que l'échange Skype, souvent, il est encadré par le département, mais après, il y a des échanges personnels via Facebook. Je vais vous donner un exemple concret sur la mobilisation et l'engagement des étudiants. Pour moi, c'est normal, cet engagement, ces témoignages, donc j'ai l'habitude de faire depuis longtemps. Mais pour un jeune étudiant qui vit dans cette prison à ciel ouvert qui est la bande de Gaza, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je pense que ce n'est pas toujours facile. Lors de l'offensive militaire israélienne de 2014, il y a eu 50 jours de bombardement et de souffrance quotidienne pour toute une population, pour 2 millions. Donc, et j'ai apprécié le travail courageux de ces jeunes Palestiniens de bonne volonté qui, à travers les réseaux sociaux, à travers leurs amis français, ils ont pris des photos à 2 heures du matin, des photos de bombardement pour envoyer à leurs amis français. Et surtout, ils ont commencé à témoigner en français. Et voilà, et jusqu'à maintenant, on a des diplômés, des étudiants qui utilisent la langue française pour témoigner, pour échanger. Et ça, c'est un élément très important. C'est pour cette raison, nous, par exemple, au département de français, on a créé un projet, un programme qui a été soutenu par beaucoup d'associations en France et beaucoup de partenaires. C'est le programme de soutien psychologique pour les enfants. Mais ça, il a commencé en 2014. Et c'était les étudiants palestiniens qui étaient trop traumatisés, comme toute une population civile après ces 50 jours. Mais les étudiants, quand ils sont allés, bien sûr, après avoir suivi des formations, quand ils sont allés sur place pour accompagner les enfants, ils ont apprécié le travail. Et donc, c'est un projet, c'est contenu. Et donc, ça montre un peu que les étudiants, ils essayent un peu de résister comme moi via la langue française, via les échanges avec le monde francophone et surtout via les témoignages pour garder le contact avec le monde francophone.
Et des étudiants qui ont pu faire part de la situation à Gaza durant cette offensive israélienne en 2014, vous l'avez rappelé, qui ont fait part de cette situation, notamment au micro de Radio Orient et dans d'autres médias également. Mmh. Et c'était important, et ça l'était aussi pour vous. Quelles sont les missions du Centre de la paix que vous avez créé, Ziad Medouk?
Écoutez, donc ça, c'est une initiative de quelques professeurs. Donc, c'est un centre qui a été créé en 2006. Moi, j'en suis le coordinateur francophone. Ça veut dire mon rôle, c'est faire des liens. Donc, le Centre de la paix, c'est essayer de faire des ateliers de formation, des échanges sur des principes, sur des concepts, sur des notions comme la justice, la paix, le rôle des femmes dans la société, le rôle des jeunes dans la société. C'est vrai, le contexte difficile, donc c'est pas facile parce que c'est un centre qui a beaucoup travaillé. Maintenant, il est un peu freiné avec le contexte parce qu'il n'y a pas de contact avec le monde francophone. Mais personnellement, donc, avec le monde francophone, les choses se passent très bien. Mais il y a d'autres responsables de centre qui travaillent avec d'autres partenaires comme l'Afrique du Sud, comme l'Amérique latine, comme les pays arabes. Mais ce n'est pas toujours facile dans le contexte. Mais l'avantage que moi, comme avec le département français, avec les liens avec le monde francophone, et hier, donc, il y avait le mouvement de la paix qu'il m'a honoré avec un diplôme de mérite. Donc, ça montre un peu que les liens avec le monde francophone, ils peuvent être utiles pour des projets et pour des partenariats solides, notamment pour essayer un peu de faire sortir la jeunesse de cet enfermement voulu par l'occupation israélienne.
Vous vivez dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre environnement à Gaza?
Moi, j'habite dans un quartier, donc, à Gaza. Une vie quotidienne comme toute la population, donc marquée par... donc, c'est vrai, le contexte dans la bande de Gaza, c'est un contexte... On ne vit pas une vie normale. Donc ça, c'est, il faut dire les choses. Notre vie est anormale. Et parce que je vous donne un exemple concret. Par exemple, on a 4 à 6 heures d'électricité par jour. Donc nous, on a une vie qui n'est pas normale. Ça veut dire... c'est pas facile de trouver, par exemple, quand il y a une pénurie de carburant, c'est pas facile de trouver un taxi parce que nous, on n'utilise pas le bus, on n'a pas de métro, on a les taxis collectifs. Donc, quand il y a une pénurie de carburant à cause d'une décision israélienne de fermer les passages, donc vous êtes obligé d'aller à pied. Et j'apprécie beaucoup quand on a des cours, on a des étudiants qui marchent de 5 à 10 km et viennent d'autres villages à pied pour. Ça montre un peu que l'éducation est un élément très important. Donc ça montre un peu, il y a un défi, il y a un contexte difficile, il y a un défi.
Par exemple, motivation.
Il y a motivation. Donc ça fait partie de l'attachement, résistance au quotidien. Tu vois, quand il y a des coupures d'électricité, donc c'est difficile pour vous. Donc quelquefois, l'électricité, elle vient à 2h du matin. Et à 2h du matin, toute la famille se réveille. Donc moi, pour travailler sur ordinateur, mes recherches, mes articles, les témoignages, ma femme pour les tâches ménagères, les enfants pour réviser. Donc il y a une forte adaptation avec le contexte. Vous voyez un peu, donc la vie, ce n'est pas normal. Donc ça, c'est après, ça, en dehors de ça, vous avez quelquefois les bombardements, quelquefois vous avez la fermeture de passage. Donc une vie qui n'est pas une vie anormale, donc, mais il y a une volonté de s'adapter. Donc qu'est-ce qui nous pousse, nous les Palestiniens, qu'il y a une prise de conscience, qu'aujourd'hui les Palestiniens, ils ont décidé de rester de ne pas partir malgré la situation très difficile, soit dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, avec le mur d'apartheid, avec la colonisation, avec les barrages militaires, avec l'échec des négociations de paix, avec le blocus de Gaza, avec la fermeture de frontières et des passages, avec le chômage, avec la situation économique très difficile. Donc, voyez un peu. Donc, tout cela, il y a des conséquences sociales sur la population civile, mais les Palestiniens, ils s'adaptent. Donc, ma vie personnelle, comme c'est moi, je me considère toujours, malgré tous les postes, et que j'ai, je me considère comme un simple citoyen palestinien, un citoyen qui ne peut pas sortir facilement à Gaza pour venir ici échanger et témoigner, un citoyen qui subit au quotidien les bombardements israéliens, un citoyen qui ne vit pas une vie normale, mais un citoyen qui a décidé de ne pas rester à l'étranger, de rester à côté des jeunes, des enfants, pour leur monter le moral, mais surtout pour témoigner, pour échanger, et pour garder espoir pour l'avenir, parce que nous sommes convaincus que l'avenir en Palestine, il est pour la paix.
Et vous vivez les marches du retour depuis le 30 mars dernier. Y avez-vous déjà participé ?
Écoutez, la marche du retour, c'est une initiative pacifique, initiative non violente, initiative populaire de la part de la société civile. C'est vrai, il y avait des partis, des groupes armés qu'ils ont essayé de récupérer, mais le fait que ça fait 9 mois, que cette société civile, ça veut dire des gens, des femmes, des hommes, de bonne volonté, qui se dirigent et donc, tous les vendredis vers les frontières, vers les entrepôts pour, et ça c'est important à mentionner, nous sommes dans une média, une radio donc très écoutée ici en France, les Palestiniens et notamment les jeunes, quand ils vont sur les frontières, ils ne vont pas pour affronter, mais pour défier. Vous voyez un peu, c'est ça la différence entre... Mais malheureusement, il y a quelques médias qui disent que les Palestiniens essayent d'aller. Non, moi, je suis sur place et quelquefois, j'accompagne des journalistes, quelquefois, j'accompagne des personnalités françaises sur place et quelquefois, je vais avec les jeunes, pour, pas pour participer, mais pour témoigner. Parce que moi, je suis convaincu que le choix de ma résistance, c'est la résistance par l'attachement à la terre et surtout par l'éducation, qui fait partie de la résistance par la non-violence. Mais sur place, j'ai constaté que les personnes et les gens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a entre 10 à 15 000 personnes qui vont à la frontière manifester tous les vendredis, donc c'est beaucoup, que ces gens de bonne volonté, ils vont seulement avec le drapeau palestinien et avec leur poitrine nue pour dire non à l'injustice, pour dire non au blocus, pour dire non à l'occupation. Et ça, c'est important pour dire que le droit au retour est sacré, même si c'est un peu utopique maintenant dans le contexte actuel. Mais la décision des Nations Unies doit être respectée, le droit international doit être respecté. Et tous les Palestiniens, les réfugiés palestiniens notamment, 70% de la population de Gaza sont des réfugiés, ils ont le droit de retrouver leur ville et leur village d'origine. Ça, c'est important. Mais moi, mon rôle, c'est témoigner. Depuis 30 mars, j'envoie des témoignages à des amis, à des solidaires, à des associations, à des médias, via les réseaux sociaux, via email, pour garder le contact avec moi. Parce que, et c'est ça le plus important pour moi, je fais le lien entre le monde francophone et Gaza. Et quand j'envoie ces témoignages avec des photos, je reçois souvent des dizaines, quelquefois des centaines de messages de soutien, et ça c'est important pour nous, de soulagement, parce que et c'est ça l'importance de cet échange, c'est témoigner de contextes difficiles et surtout avoir des amis, des solidaires qui vous envoient des messages, parce que le plus important pour nous, c'est cette solidarité morale et cette solidarité associative, cette solidarité populaire de l'extérieur. Moi, j'ai apprécié beaucoup parce que je suis francophone, donc je suis au courant. Et donc, les messages de soutien qui viennent des amis français et francophones, donc ça nous encourage à continuer à résister parce que nous, les Palestiniens, nous avons perdu espoir en cette communauté internationale officielle. Donc, il nous reste seulement l'attachement à la terre et le soutien moral, la solidarité de l'extérieur par des gens de bonne volonté, par des associations, par des mouvements qui font un travail remarquable et que j'ai pu constater ont venu ici en France, au Havre, à Saint-Nazaire et aujourd'hui à Paris, à travers les conférences, à travers les relations et ma participation à quelques manifestations de soutien. Ça montre un peu qu'il y a un travail de solidarité donc très important ici en France. Et je pense que la marche de retour, c'est une marche pacifique, même si le bilan est très lourd. Donc On a 250 morts palestiniens et 24 000 blessés. Mais le fait de se diriger tous les vendredis avec le même slogan, ça veut dire avec des actions pacifiques, avec défier, avec un slogan très clair, avec un mot d'ordre très clair, pas d'armes, pas de violence, seulement défier, pas affronter, défier les soldats israéliens qui se trouvent déjà dans des territoires des anti-impôts, ça veut dire dans des territoires appartenant à des Gazaouis, à des Palestiniens. Ça montre un peu que la résistance par la non-violence pourrait être efficace, que les actions pacifiques peuvent défier les soldats et surtout peuvent avoir un regard plus important de la communauté internationale qui devait jouer un rôle plus important pour, ni moins, arrêter donc les mesures atroces de l'occupation sur place et surtout pour relancer le processus de paix en plein échec entre Palestiniens et Israéliens.
Merci.
Je vous en prie. Ziad
Medouk, merci de vous être rendu ici dans les studios de Radio Orient. Ziad Medouk, directeur du département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza, coordinateur du Centre de la paix, également poète. Témoin, c'est aussi comme ça que vous vous décrivez. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Rencontre sur Radio Orient.